Bonsoir, bienvenue à tous pour cette nouvelle séance du cycle décalage de l'Université populaire du Musée du Quai Branly. Alors, je suis Grégory de Laplace et j'ai l'honneur ce soir de remplacer Toby Nathan pour animer cette soirée. Malheureusement, Toby Nathan n'a pas pu être des nôtres ce soir. Donc aujourd'hui, notre séance tourne autour du lait. Le lait, c'est une substance extrêmement chargée, symboliquement, à travers les sociétés humaines qu'ils produisent ou qu'ils transforment, et c'est une denrée absolument centrale des sociétés pastorales, l'un des produits réellement emblématiques de l'élevage. Alors pour nous en parler, ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux invités éminents, François Vatin et Carole Ferré. Ils nous parleront respectivement du lait en Europe et en Asie centrale. François Vatin est professeur de sociologie à l'Université Paris-Ouest, spécialiste notamment de sociologie économique. Alors, François Vatin, vous vous êtes notamment penché sur l'économie du lait, sur sa commercialisation, et vous avez publié de nombreux ouvrages que j'ai ici, alors notamment deux livres sur le lait spécifiquement, c'est celui-ci, « L'industrie du lait, essai d'histoire économique », c'est publié chez L'Harmattan en 1990, et ici, le second, Le lait et la raison marchande, essai de sociologie économique, et c'est publié aux presses universitaires de Rennes en 1996. Donc, dans ces ouvrages, notamment dans le second, vous avez suivi le lait à Paris, en Bretagne et en Afrique de l'Ouest, chez les peuls du Sénégal. Vous nous parlerez aujourd'hui plus spécifiquement du lait en Europe. Alors, notons aussi que vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'espérance monde, essai sur l'idée de progrès à l'heure de la mondialisation » et c'est publié chez Albin Michel, bibliothèque Idées. Voilà. Carole Ferré, vous êtes docteur en anthropologie, chercheur au CNRS et spécialiste des Yakouts de Sibérie. Donc votre travail de thèse vous a conduit à vous intéresser au cheval. Et alors, au cheval sous toutes ses coutures, si on peut dire, puisque vous êtes intéressé notamment à l'économie du cheval chez les éleveurs sibériens, mais aussi à toutes les actions par lesquelles ils interagissent avec leurs chevaux. Vous avez publié un livre à ce sujet qui s'intitule « Une civilisation du cheval, les usages de l'équidé de la steppe à la taïga » et c'est publié chez Belin en 2009. Aujourd'hui, vous nous parlerez donc du lait en Asie centrale. Donc nos deux intervenants parleront chacun 20 à 30 minutes et ensuite on ouvrira la discussion. Je commencerai par poser quelques questions et ensuite on vous donnera la parole pour une trentaine de minutes. Donc sans plus attendre, je vous propose d'écouter François Vatin pour nous parler du lait en Europe.
J'ai commencé par une question un petit peu stupide. Qu'est-ce que le lait ? Biologiquement, il s'agit de la sécrétion de la mamelle des mammifères. Mais quand on parle du lait dans nos sociétés, on ne pense pourtant pas en général au lait de baleine ou à celui de souris. Et pourtant, la baleine et la souris font bien du lait. On envisage le plus généralement le lait des ruminants et tout particulièrement celui de la vache. Pourtant, dans l'histoire, l'homme a utilisé le lait de bien d'autres animaux. Les équidés, lait jument en Asie centrale, je suis sûr qu'on en parlera tout à l'heure. Le lait d'ânesse, qui a une histoire dans nos sociétés. De nombreux contes évoquent cette figure du lait d'ânesse. Les camélidés, les rennes en Scandinavie. On a pu exploiter aussi du lait de chienne, la figure de la louve de la Rome antique raconte bien cette histoire, et de bien d'autres animaux. Cette première question en entraîne une autre, la différence entre lait et produits laitiers. L'origine de l'exploitation du lait est liée à la nourriture de la petite enfance. En fait, le premier lait, c'est celui de la femme, le lait maternel. Le lait des autres espèces est un lait de substitution. L'enjeu fut de trouver les laits les plus proches possibles de celui de la femme. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve cette figure du lait de chienne. L'image de Romulus et Rémus que nous avons dans la tête. Cas amusant, le lait de chèvre, c'est l'origine de l'expression caprice. Les enfants nourris au lait de chèvre avaient la réputation d'acquérir le lait des chèvres et d'être capricieux comme elles. Mais dans nos sociétés, la consommation de lait a débordé la petite enfance. C'est l'enjeu du célèbre grand partage de l'humanité entre buveurs et non-buveurs de lait qui avait été analysé par un article de Lucien Bernaud dans un article de L'Homme en 1988. Tous les petits hommes boivent du lait, celui de leur mère, du lait de substitution si nécessaire. L'enjeu est de savoir si on continue à boire du lait à l'âge adulte, ce qui n'est pas si général dans nos sociétés, mais aussi de savoir si on fabrique d'autres produits à partir du lait. C'est ici qu'on passe de la définition biologique du lait à sa définition socio-économique comme un produit parmi un ensemble de produits laitiers. Ce qu'on appelle aujourd'hui du lait en France, c'est un produit qu'on pourrait dire dénaturé, c'est du lait de vache, en général semi-écrémé, et soumis à un traitement thermique violent, la stérilisation ultra haute température. D'autres produits existent, qui correspondent en France à des niches de marché, mais qui ont pu être dominants ailleurs, ou qui continuent à dominer ailleurs. D'abord, le lait pasteurisé, qui fut autrefois le produit dominant, qu'il a encore dans le monde anglo-saxon ou en Europe du Nord. Ensuite, le lait frais, non traité thermiquement, qui a retrouvé des linéaires des supermarchés avec un contrôle sanitaire des étables. À mi-chemin, un curieux produit qui montre bien tous les problèmes de nomenclature. Le lait ultra-filtré, qu'est-ce que c'est que du lait ultra-filtré? C'est du lait qui a été préalablement écrémé, qui est passé à travers un filtre de façon à éliminer les germes, mais parallèlement, la crème a dû être pasteurisée pour être remise dans le lait, ce qui a posé d'ailleurs de grands problèmes aux gens qui ont conçu ce produit pour le faire reconnaître par les autorités de contrôle commercial et sanitaire européen. Enfin, je vous ai peut-être pu noter qu'on voit apparaître maintenant dans nos linéaires du lait d'autres espèces comme du lait de chèvre. Pourtant, quand on parle de lait, le lait boisson, cela ne correspond qu'à une faible fraction du marché laitier, et c'est ici qu'il faut penser la notion d'industrie. Pour ça, il faut revenir à la composition du lait. En gros trait, qu'est-ce que c'est que le lait? Il est composé d'abord d'eau, ensuite de lipides, les parties grasses, de protéines, la caséine, d'un sucre, le lactose, et enfin, si on peut dire, nous verrons pourquoi, des microbes, les ferments qui se développent dans le lait. Cette dernière remarque peut paraître bizarre. À l'époque pasteurienne, les biologistes ont pu montrer qu'un lait extrait dans des conditions aseptiques de la mamelle saine d'un mammifère était exempt de microbes et pouvait donc se conserver sans traitement dans des conditions aseptiques. Mais ce résultat était contraire à l'expérience commune de l'éleveur, pour qui les ferments font partie du lait, au sens où ils se développent spontanément dans du lait laissé à l'air libre. Ainsi, si les microbes ne font pas partie du lait défini biologiquement, ils font bien partie du lait défini techniquement. À partir de ces éléments, on peut poser la grammaire productive de la laiterie, c'est-à-dire les contraintes imposées par le produit pour son exploitation industrielle. Quand je parle d'industrie, c'est au sens très large, de toute activité tournée vers la transformation et ou le commerce de produits laitiers. Il y en a par 40 000 manières de traiter le lait. On peut tenter de le conserver liquide, c'est l'objet des traitements thermiques antiseptiques que j'évoquais, mais aussi de son conditionnement aseptique, l'embouteillage. On peut le dessécher, extraire l'eau, c'est l'industrie du lait concentré ou du lait pulvérisé. On peut laisser se développer les germes dominants, les ferments lactiques, c'est l'industrie du yaourt, caillé lactique, traditionnel dans le monde turco-mongol, dont on parlera tout à l'heure, mais qui n'est arrivé en Europe occidentale qu'au XXe siècle. Si on le sèche, on obtient alors un pseudo-fromage, tradition que l'on peut trouver en Asie centrale ou en Afrique du Nord. On peut enfin séparer les parties grasses et les parties caséeuses. C'est ainsi que l'on obtient la crème et le beurre, ce qui pose d'ailleurs le problème de la valorisation des parties caséeuses dans l'alimentation du bétail, mais on a trouvé une industrie qui s'est développée au moment où on a commencé à développer la beurrerie industrielle à la fin du XIXe siècle en Europe, ce qui a été l'industrie de la caséine industrielle. Enfin, on peut faire du fromage. J'insiste là-dessus parce que c'est finalement l'industrie qui est au cœur de la culture laitière européenne. La fromagerie apparemment est née dans le bassin méditerranéen. Elle consiste à faire cailler, c'est-à-dire coaguler le lait avant qu'il ne soit fermenté. On emploie pour cela une substance, la présure, qui peut être végétale, mais qui, dans nos sociétés, en général, est animale, extraite du quatrième estomac des jeunes veaux, ce qu'on appelle la caillette. Et à partir de là, il y a une importante série de traitements possibles de ce caillé. Très rapidement, on distingue quatre catégories de fromages, les fromages à pâte fraîche, où on a simplement fait cailler le lait, ceux à pâte molle, où il y a une fermentation avec un égouttage spontané, les fromages à pâte pressée, où on a pressé le caillé de façon à extraire plus vite le petit lait, et enfin les fromages à pâte cuite, où il y a eu un chauffage du caillé. Ces rappels techniques sont indispensables pour comprendre la situation socio-économique et anthropologique du lait et des produits laitiers dans notre société. En effet, l'industrie laitière n'est pas si ancienne qu'on ne le pense généralement. Jusqu'au XIXe siècle, l'Europe est dominée par une économie rurale où l'élevage laitier ne peut occuper qu'une place marginale. L'enjeu, c'est, on le sait bien, d'abord la culture céréalière. Les animaux d'élevage, en petit nombre, sont d'abord élevés pour le trait et l'élevage laitier se développe sur les terrains propres à la culture, dans les landes, les forêts et surtout les montagnes. La première industrie laitière capitalistique correspond à la production de fromage de garde pour l'avitaillement des navires, qui se développe notamment en montagne avec des marchands affineurs qui récupèrent le lait des fromageries villageoises et qui le font circuler vers les ports, vers le port de Marseille et de Gênes, par exemple, pour les fromages des zones alpines, vers le port de Bordeaux pour le fromage du Cantal, etc. De même, le développement de la fromagerie en Hollande, liée au port hollandais ou en Grande-Bretagne également. Les produits laitiers, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sont des produits chers, comme en témoignent d'ailleurs les nombreux proverbes qui associent le lait et les produits laitiers à la richesse ou à l'argent. Autre remarque à faire, c'est que durant cette première période, la valorisation du lait est d'abord celle de ses parties grasses. Les parties azotées sont un sous-produit que l'on consomme à la ferme pour l'alimentation humaine mais aussi animale, y compris dans le développement urbain, ce qu'on appelle le fromage pour l'alimentation populaire. Il y a une expression qui dit au XIXe siècle que le livaro est le pain de l'ouvrier. Il faut comprendre à l'époque qu'il s'agit de fromage fait avec du lait fortement dégraissé. L'industrie laitière moderne apparaît au milieu du XIXe siècle avec le développement de fromageries de plaine produisant des fromages à pâte molle, gras, pour les classes supérieures et moyennes urbaines. Avec le chemin de fer, cette industrie va s'étendre jusqu'à dans un rayon de 400 km autour de Paris. De même, c'est dans la même logique que se développe la beurrerie industrielle dans la région des Charentes. Dans une zone plus proche, autour de 200 km, se développe une collecte de lait pour la fabrication de lait boisson et de produits frais. Cette période, qui démarre dans les années 1870-1880, correspond à ce qu'on peut appeler la révolution laitière de la fin du XIXe siècle, avec le développement de technologies laitières qui permettent de transformer le lait en continu dans ce qui correspond à des usines à flux continu. Pourtant, une grande partie de la transformation laitière va rester fermière jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et il faut évoquer donc une seconde révolution laitière dans l'après-Seconde Guerre mondiale qui a fait de la laiterie une des industries agroalimentaires les plus puissantes, les plus concentrées, les plus automatisées. Dans ce contexte, on passe à une nouvelle phase qui va être le développement de la mercatique, avec, en France tout particulièrement, le développement proliférant de ce qu'on appelle les desserts lactés, qui apparaissent dans les linéaires des supermarchés, à partir du yaourt, mais aujourd'hui, des formes bien plus variées. Vous pouvez le constater comme moi en faisant vos courses. Ces desserts lactés sont, si je peux dire, la vache à lait des industriels. D'où d'ailleurs la régression du lait pasteurisé au profit du lait UHT, qui a le grand avantage de ne pas nécessiter de conservation réfrigérée. Il est assez frappant de voir que dans les pays où on continue à consommer du lait pasteurisé, comme en Grande-Bretagne ou dans les pays scandinaves, il y a beaucoup moins de desserts lactés, comme si finalement l'espace du linéaire réfrigéré pouvait être occupé soit par les desserts lactés, soit par le lait pasteurisé. Alors le temps me manque pour raconter cette histoire et ses nombreuses ramifications, mais ce bref récit est indispensable pour tenter de saisir les enjeux présents quant à la place du lait dans notre société. L'histoire de l'alimentation en Occident, à l'époque moderne et contemporaine, est en effet marquée depuis le XVIIIe siècle par la part croissante occupée par les produits animaux. On peut montrer que la croissance de la consommation de produits animaux et la décroissance corrélative de la consommation de céréales accompagnent indiscutablement l'enrichissement des populations en Europe depuis le XVIIIe siècle. Or, cette tendance connaît, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, un infléchissement net en ce qui concerne la consommation de viande. On y trouve la critique sanitaire des graisses alimentaires, une beaucoup plus grande sensibilité à la souffrance animale, qui met en cause les formes d'élevage et d'abattage de la viande, la critique écologique de l'élevage, jugée aussi responsable au sens d'une mauvaise transformation des ressources qui sont d'abord les ressources végétales. Or, jusqu'il y a peu, les produits laitiers, servis par cette mercatique efficace, que j'évoquais tout à l'heure, le lait, les produits laitiers apparaissent comme des produits sains et ludiques, ont été protégés de cette régression. À noter toutefois le passage de la valorisation du gras à la valorisation du maigre, ce qui n'a pas été sans poser de problème pour la valorisation de la crème du lait. Vous aurez pu noter, comme moi, que le yaourt ordinaire, tel qu'il est présent dans les linéaires du supermarché, est devenu du yaourt au lait entier, alors qu'autrefois on payait plus cher le yaourt au lait entier. Maintenant, c'est le yaourt standard. Et il faut aller chercher, au contraire, le yaourt maigre. Or, on assiste aujourd'hui à une offensive contre les produits laitiers qui inquiète les professionnels du secteur. J'avais été sollicité d'ailleurs par l'interprofession laitière qui avait réuni une série d'experts pour s'inquiéter de cette situation. Comme si, en fait, les consommateurs prenaient enfin conscience du lien organique, j'emploie le terme organique dans tous les sens du terme, entre l'industrie du lait et celle de la viande. La consommation de lait, les statistiques le montrent, a atteint son acmé en Europe dans les années 1980, et ceci malgré la poursuite de la progression du marché des desserts lactés. Parallèlement, la consommation de lait progresse dans d'autres régions du monde, dans ces zones traditionnellement non consommatrices de lait, comme en particulier en Asie du Sud-Est. On assiste donc, et ce sera ma conclusion, à l'heure de la mondialisation, à une espèce de rééquilibrage mondial de l'élevage, de la transformation et de la consommation laitière, comme dans un jeu de vases communicants. Ainsi, aujourd'hui comme hier, la laiterie apparaît comme un lieu privilégié pour penser la transformation économique, sociale et même anthropologique du monde. Je vous remercie.
Merci beaucoup, François Battin. Donc, nous aurons l'occasion de discuter avec vous de toutes les propositions que vous nous faites, vraiment passionnantes. Pour l'instant, nous allons écouter Carole Ferré, qui va nous parler donc, du lait chez les pasteurs de Sibérie et d'Asie centrale, en particulier Yakout et Kazakh.
Bonsoir. Alors, je vais vous parler du lait chez les pasteurs de Sibérie et d'Asie centrale, et notamment des Yakouts et des Kazakhs, que vous voyez en légèrement rosé sur la carte. Alors, ces deux peuples ont en commun d'être tous les deux turcophones, d'avoir appartenu à l'ex-URSS. Ces deux pays, la Yakoutie et le Kazakhstan, correspondent à d'immenses territoires, 3 millions de kilomètres carrés pour la Yakoutie, 2,7 pour le Kazakhstan, d'immenses territoires peu peuplés, où l'activité traditionnelle est le pastoralisme, c'est-à-dire l'élevage de troupeaux d'herbivores. La différence principale qu'on peut voir entre Yakout et Kazakh tient d'abord à la différence des écosystèmes, avec principalement la steppe en Asie centrale pour les Kazakhs et la taïga, c'est-à-dire une forêt de conifères pour les Yakouts en Sibérie orientale. Les Yakouts, traditionnellement, vivent dans des clairières qui s'appellent Alas en Yakout. On voit ici une vue d'avion où se découpent nettement ces Alas en blanc, souvent avec un lac, qui sont les lieux de vie traditionnels des Yakouts. Yakout et Kazakh sont des peuples pasteurs où l'élevage constitue traditionnellement la première activité. Actuellement, au Kazakhstan, il y a 18 millions de d'ovins et de caprins, près de 6 millions de bovins, 1,6 million de chevaux, donc 5 espèces principales de bétail, tandis qu'en Yakoutie, autrement appelée République Sara, il y a principalement 3 espèces de bétail, les chevaux, les bovins et les rennes. Depuis les années 90, c'est-à-dire la fin de l'URSS, le cheptel à la fois en Yakoutie et au Kazakhstan a nettement diminué, d'abord dans les années 90, puis a connu une légère recrudescence dans les années 2000, qui est différent. Bon, vous voyez sur les schémas qu'il y a des différences selon les espèces, je ne détaille pas ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en Yakoutie avec les chevaux, les bovins et les rennes, ou au Kazakhstan avec les chevaux, les bovins, les ovins, les caprins, les camélidés, toutes ces espèces peuvent être traites. Pour les Yakouts, il y a un fort contraste entre, d'une part, l'élevage des bovins et l'élevage des chevaux. En effet, la Yakoutie est un pays marqué par une extrême continentalité du climat, avec des températures en hiver qui atteignent moins 60 degrés. Dans ces conditions, les vaches doivent être gardées dans des étables 8 mois sur 12, tandis que les chevaux, eux, au contraire, pâturent toute l'année en liberté à l'extérieur, de même que les rennes, la troisième espèce élevée par les Yakouts. Il y a donc une forte disparité du nourrissage des chevaux et des vaches, qui fait que l'élevage du cheval apparaît plus rentable puisqu'il ne nécessite pas un affouragement important. Les chevaux grattent la neige pour paître en hiver. Les vaches, comme je vous l'ai dit, restent la majeure partie de l'année dans des étables qui s'appellent choton en yakout. Elles ne sortent en hiver qu'au moment de l'abreuvement. Donc là, vous voyez une personne qui perce un trou dans la glace du lac afin que les vaches viennent elles-mêmes s'abreuver au trou à eau une fois par jour. Alors quand la température est douce, c'est-à-dire jusqu'à moins 30, puisque j'y étais encore la semaine dernière, moins 30 pour eux, c'est une température douce, les vaches traînent un petit peu avant de rentrer. Et quand il fait froid, en revanche, elles se dépêchent de revenir à l'étable. Il y a une race yakout de bovins qui est très peu nombreuse actuellement. Il y a quelques spécimens dans la région Evenho-Butantay. Cette race yakout de bovins se distingue par le fait qu'elle produit très peu de lait, mais du lait gras, et qu'elle supporte mieux le froid que les vaches simmentales qui ont été importées en Yakoutie à partir surtout de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, quelques images de traite des bovins en Yakoutie, puisque que ce soit pour les Yakoutes ou les Kazakhs, la majeure partie de l'alimentation est constituée de produits animaux, produits laitiers et produits carnés. L'anthropologue Tim Ingold fait une distinction entre, d'une part, un pastoralisme à lait et un pastoralisme à viande, selon qu'on exploite les animaux principalement pour leur lait ou principalement pour leur viande. Mais que ce soit pour les Yakoutes ou pour les Kazakhs, il est difficile de faire cette distinction dans la mesure où tous les animaux sont à la fois traits et mangés. Même si, selon les espèces, l'importance de chacune de ces deux exploitations varie. Et que ce soit pour les Yakoutes ou pour les Kazakhs, la première productrice de lait, c'est comme chez nous, la vache, en tout cas à l'heure actuelle. Donc les vaches sont traites à l'intérieur de l'étable qui est entièrement faite en bois, même le plancher, comme vous le voyez ici. Là, une grande étable avec donc cette dame qui a travaillé, Akulina Prokopeva Kudrina, qui a travaillé par exemple pendant 40 ans comme treilleuse, d'abord dans les kolkhozes, ensuite dans les sovkhozes. Elle a trait donc pendant 7 jours sur 7, 16 vaches par jour, 10 mois par an. Et actuellement, elle a 75 ans, je crois, et elle continue à traire les vaches de la ferme d'élevage que vous voyez en bas, où travaillent ses beaux-fils. Alors, j'ai un petit film sur la traite des vaches en Yakoutie. Alors, que ce soit en Asie centrale ou au Kazakhstan, la caractéristique de cette traite est la technique que j'ai appelée technique de la sucée, c'est-à-dire que, un peu comme la vache salaire chez nous, on utilise le veau pour favoriser la montée de lait de la vache. C'est-à-dire que le veau est autorisé à téter quelques instants avant la traite. Donc là, on voit Anna, cette dame, qui prend soin de changer le treillon du veau. Elle le laisse téter 2-3 minutes, puis elle l'attache devant la vache avant de la traire. Et d'après ce qu'on m'a dit, cette technique de la sucée permet de favoriser la productivité laitière des vaches. Certaines vaches ne donneraient pas leur lait sans cela. Et chez les Yakoutes comme chez les Kazakhs, la traite est donc conçue non comme un simple prélèvement de lait sur la vache, mais bien comme une manipulation de la vache, qu'il s'agit de convaincre de donner son lait. Bien des gens m'ont dit que sans la participation du veau, la vache ne donnerait pas son lait. En fait, cette technique n'est pas universelle, notamment au moment des sovkhozes, quand on a augmenté le nombre de bovins et le nombre de bovins traits par personne. On a habitué certaines vaches à être traites directement sans la participation du veau. Mais encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, les éleveurs estiment que la participation du veau permet d'avoir plus de lait, même si elle est plus coûteuse en temps. Elle permet aussi d'éviter certaines maladies telles que les mastites. Bon. Donc, je passe à la suite pour gagner un peu de temps. Donc, avec ce lait qu'on vient de traire, on peut faire différents produits laitiers, et que ce soit chez les Yakoutes ou chez les Kazakhs. On a une énorme richesse et une grande diversité des produits laitiers sous différentes formes. Notamment ici, le sourat, qui est une sorte de yaourt Yakout, qui est mis à égoutter ici. Mais ce que les Yakoutes préfèrent avant tout, c'est la partie grasse du lait, c'est-à-dire qu'ils utilisent principalement la crème et le beurre. Donc ici, les crémeuses ou la... ils appellent ça le séparateur, donc qui permet de séparer la crème du lait. On obtiendra d'un côté le petit lait qui servira à l'alimentation des veaux et de l'autre la crème qui pourra être fouettée avec un instrument en bois qui permet de faire de la crème fouettée, qui s'appelle le kutcher, ou qui sera transformé en beurre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le lait n'est pratiquement pas utilisé sous sa forme, il n'est pas utilisé cru et il n'est pas utilisé ni même simplement bouilli, à part simplement pour agrémenter le thé. Chacun garde un petit peu de lait à mettre dans le thé pour la boisson de la journée. Mais sinon, tout le lait qui est trait est ainsi séparé et on utilise principalement la crème. Et dans l'ensemble de l'alimentation yakoute, et c'est compréhensible vu les températures qu'il fait dans ce pays, c'est surtout le gras qui est valorisé et surtout les produits laitiers gras qui sont utilisés. Donc ici, on voit le séparateur électrique. Une fois que en bas dans le grand seau, c'est le petit lait qui tombe, et dans la petite casserole blanche, c'est la crème. On obtient à peu près, je crois, 800 grammes de crème pour 10 litres de lait. Après quelques jours, la crème peut être baratée en beurre. Donc c'est un travail assez physique. Donc là, on voit Anna qui va se faire aider par sa petite fille afin de tenir la casserole de beurre. Et dans la mesure où en Yakoutie, le sous-sol est gelé en permanence, c'est le phénomène qu'on appelle la merzlata, le beurre peut être conservé sans aucune difficulté à la cave, puisqu'il est conservé, gelé en permanence. Même en été, quand les températures atteignent 35 degrés, la cave reste gelée et le beurre peut se conserver à la cave pendant plusieurs mois. Alors là, une autre technique, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de changements, mais simplement, le seau est tenu entre les deux pieds et il barate de la même manière, en tenant la barate à une main ou à deux mains. Il verse le babeurre et continue à barater. Maintenant, je vais vous parler des produits laitiers chez les Kazakhs. Alors, l'élevage kazakh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est plurispécifique, c'est-à-dire qu'il y a 5 espèces de bétail élevées ensemble. Ici, vous voyez une photo de nomadisation avec des bovins, des chevaux, des ovins et des caprins. Toutes les espèces peuvent être traites, comme je vous l'ai dit. Avec le lait de chamelle, on fait du choubat, du lait fermenté de chamelle. On peut traire également les brebis et les chèvres, mais cette utilisation est relativement rare aujourd'hui. Notamment, on peut traire du lait de chèvre pour nourrir un enfant dont la mère n'a pas assez de lait. Mais le principal animal trait, c'est comme pour les yakouts, la vache. Et comme pour les yakouts, on utilise la technique de la sucée. Donc ici, un petit film avec un veau qui, de la même manière, tète un peu avant que sa mère ne soit traite. Donc ici, c'est des photos que j'ai prises, un petit film que j'ai pris cet été sur un estivage. C'est-à-dire qu'une partie des élevages kazakhs continue à transhumer en été et à partir en altitude dans les alpages à la belle saison, ce qui permet d'améliorer l'alimentation des animaux. Et le lait des alpages, notamment le lait de jument, est considéré comme bien meilleur que le lait des animaux qui restent dans la plaine. Donc là, vous observerez simplement la différence avec une petite différence technique avec les yakouts, c'est que la femme est simplement accroupie. En Asie centrale, la position accroupie est très souvent utilisée, et sans tabouret comme en yakouti. En plus, la vache ici est traite par la gauche, alors qu'habituellement, les yakouts traitent toujours les vaches par la droite et les chevaux par la gauche. Les veaux, je ne sais pas si vous voyez sur l'image, les veaux sont gardés dans un petit enclos fait avec deux treillis de yourte. Donc là, l'homme, une fois que le veau a tété, il met le veau dans un enclos afin qu'il ne puisse plus téter jusqu'à la prochaine traite. Le même séparateur pour séparer la crème du lait ici, simplement qu'il est ici manuel puisqu'il n'y a pas d'électricité sur les estivages, avec d'un côté la crème et de l'autre le lait écrémé. Donc la même chose, cette fois ce n'est pas un estivage, mais c'est une station de printemps, c'est-à-dire que c'est une maison en dur, mais là où l'éleveur ne vit que... En fait, ça lui sert à la fois d'habitation pour le printemps et pour l'automne, tandis qu'en été, il part sur l'estive, et en hiver, il habite dans une autre maison. Avec son troupeau, il nomadise comme ça 4 fois par an. Et ici, c'est la petite fille, donc pendant les vacances d'été qui durent 3 mois, c'est la fille de 10 ans qui était chargée de séparer la crème du lait. C'est une opération assez longue puisqu'il y avait une dizaine de vaches à traire et donc ça lui prenait bien 2 heures pour séparer la crème tous les matins. Et pendant qu'elle sépare la crème, le cousin à cheval chasse les vaches un petit peu plus loin pour qu'elles pâturent durant la journée, tandis que les veaux, eux, restent à pâturer près de la maison. Thank you. J'étais un peu trop vite. Donc, avec le lait écrémé, on peut faire de l'ayran, c'est-à-dire une sorte de yaourt. Donc là, on voit, il est mis à égoutter. On peut faire également du kurt, c'est-à-dire une sorte, alors je ne sais pas si ça correspond à la définition du fromage, mais en fait, c'est du yaourt chauffé, salé, séché à l'air. Et on peut faire du beurre, qui est baratté cette fois à la main et qui a la particularité d'être mis dans un estomac de mouton. Donc là, vous voyez l'estomac de mouton à gauche, donc qui a été évidemment nettoyé et bouillanté. Donc il est baratté à la main et ensuite mis dans l'estomac et de cette manière, il peut se conserver plusieurs mois. Et c'est ce qu'on appelle du karanmai, c'est-à-dire du beurre d'estomac, qui est particulièrement prisé et goûté et qui vaut à peu près 2 ou 3 fois plus cher que le beurre habituel. J'ai encore une. Alors, il y a une deuxième manière de faire du beurre au Kazakhstan. C'est celle-ci. Non pas à partir de la crème, mais à partir du yaourt. C'est-à-dire l'ayran. On additionne de l'eau au yaourt et on le barate à l'aide d'un moussoir jusqu'à ce qu'il se forme des grumeaux de beurre qu'on récupère à la main. Donc c'est une deuxième technique de fabrication du beurre qui est plutôt utilisée dans le sud du Kazakhstan. Tandis que la première est plutôt utilisée dans les régions plus froides. Donc là, on était dans le sud-est tout à l'heure. Donc elle récupère en fait les grumeaux de beurre et elle remet le bas-beurre dans la baratte. Bon, ça c'est la même chose, il y a des petites différences, mais je passe. Puisque je voulais dire quand même un ou deux mots pour finir sur la traite des juments. Donc la deuxième laitière pour les Kazakhs, c'est la jument. À cette différence près qu'elle est traite seulement à la saison estivale et que le lait de jument ne permet guère que de faire du koumis, du lait de jument fermenté, qui est une boisson très prisée, qui existait également chez les Yakoutes, mais qui a maintenant surtout une utilisation rituelle pour les Yakoutes, tandis qu'il garde une importance certaine dans l'alimentation centra-asiatique. Donc on attache les poulains quand ils ont à peu près un mois, et on traite les juments pendant les mois d'été en général. La différence de la traite des juments tient à la fois au fait que la position du trayeur est différente, que le trayeur peut aussi être un homme, et qu'elles doivent être traites toutes les 2 heures. Donc ici, une petite cérémonie de la première traite des poulains. Donc, on plante les piquets pour la corde d'attache des poulains, qui s'appelle le gelle. On fait venir les juments et les poulains. On attache les poulains. Donc, pour la première traite de l'année, on fait une petite cérémonie en enduisant ces piquets de la corde d'attache avec du beurre. Les juments sont des animaux parfois capricieux, donc là vous avez vu la jument est entravée. Afin de ne pas pouvoir donner de coup de pied. Ici aussi, on voit que la femme prend certaines précautions avant de s'approcher de la jument. Le lait est ensuite battu vigoureusement dans un tonnelet en bois. Autrefois, il était battu dans une outre en cuir, mais actuellement, le bois est plus fréquent, ou même parfois des cuves en plastique. Donc là, c'est un homme qui traie à l'intérieur d'une étable. Il prend vous voyez qu'il prend des précautions pour ne pas se faire taper par la jument. Il lui entrave un postérieur avant de la traire. Et vous remarquerez aussi que pour traire, à la différence des vaches, on passe une main derrière le postérieur. On met un genou à terre et le seau sur l'autre genou. Et ensuite, le koumis doit être vigoureusement battu. On dit parfois que pour faire un bon koumis, il faut donner 2000 coups de batois, de moussoir. Et plus il est battu, meilleur il est. Bon, après, il y a différents secrets de fabrication pour le koumis. Je ne détaille pas ici, mais cette boisson est considérée comme particulièrement bonne pour la santé. Et elle a notamment été utilisée pour soigner la tuberculose. Pour finir, un petit tableau sur la part des produits laitiers dans l'alimentation au Kazakhstan, en Russie et en France. Donc, la part des produits laitiers est importante au Kazakhstan. Mais si on regarde l'évolution depuis la fin de l'URSS, on remarque que la consommation de beurre au Kazakhstan est passée de 3,9 kg par an et par habitant à 1,6, donc a été diminuée par deux, en même temps que la consommation d'huile végétale la consommation de beurre a été divisée par deux, tandis que la consommation d'huile végétale a été multipliée par deux. Donc pour finir, je dirais que si on peut diviser l'humanité entre buveurs de lait et non-buveurs de lait, entre lactophages et lactophobes, certainement les Yakoutes et les Kazakhs se situeraient résolument du côté des buveurs de lait, mais que cette prépondérance des produits laitiers dans l'alimentation a tendance à diminuer ces dernières années. Et on voit même, donc je rentre juste de Yakoutie, et on voit même dans plusieurs cas la mayonnaise qui remplace la crème fraîche. Voilà. Donc là, une petite tablée avec différents produits laitiers Yakout. Donc crème fouettée, bepar, qui est en fait un ersatz de koumis, mais à partir de lait de vache additionné d'eau et de sucre. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci à vous, Carole Ferré, pour ce voyage imagé à travers la taïga et les steppes de l'Asie centrale. Donc, j'aurai des dizaines de questions à vous poser, évidemment. Il va falloir que je choisisse pour laisser la parole au public ensuite. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est que si quiconque en doutait, il faut prendre le lait au sérieux. C'est quelque chose qui est important. Si on suit le lait, on parcourt un ensemble de phénomènes cruciaux, pas seulement pour nos sociétés, mais pour l'humanité, qui touchent à l'organisation sociale, à l'organisation du travail, au rapport de genre, au rapport homme-femme dans une société, mais aussi au changement social, même à l'industrialisation, comme vous le montrez, et même jusqu'aux relations nord-sud. Le lait, finalement, est partout, à tel point qu'on finit par l'oublier, tellement il est omniprésent dans nos sociétés, et dans les autres. Donc, en fait, c'est un petit peu le sens de ma première question, qui sera assez générale, mais pour ouvrir le débat, et que je vous poserai à tous les deux, c'est d'essayer de voir le lait comme un acteur à part entière. Si on essaie de le suivre, on voit qu'on fait subir tout un tas d'opérations au lait, on le barate, on le tape, on le congèle, on le transporte, on le transforme, mais qu'est-ce que le lait lui-même fait? On voit qu'il fait des choses aux personnes qui les boivent, les enfants qui boivent du lait de caprin deviennent capricieux, mais qu'est-ce qu'il fait aux groupes sociaux finalement? Et qu'est-ce qu'il fait aux sociétés humaines? Et dans quelle mesure il participe à former et à transformer les sociétés humaines. Et bon, cette question ne vient pas de nulle part, puisque la dernière phrase de votre livre, qui avait déjà été citée, va dans ce sens. Votre livre de 1996, vous finissez votre livre en disant « Le lait imposait sa raison propre, il fut probablement le seul acteur purement rationnel de notre récit. » À l'issue de votre récit, où vous suivez justement le parcours du lait à travers la France et l'Afrique de l'Ouest. Donc, ma question ouverte à tous les deux, c'est dans quelle mesure le lait lui-même est un acteur, et s'il est un acteur, que fait-il ?
Pas évident de... Pas évident de répondre à une telle question. Je veux dire, la formule telle qu'elle figurait dans l'ouvrage est un plaidoyer pour, effectivement, une approche de la question laitière, comme de façon générale de tout ce qui relève de l'organisation économique et industrielle, en prenant au sérieux la matérialité du produit et les contraintes qu'il impose. Et c'est ce que j'ai essayé de vous dire aussi en quelques mots tout à l'heure. Moi, j'ai été très frappé, notamment en regardant la présentation qui était faite, la similitude avec des choses qu'on peut trouver dans d'autres zones. Bon, ce que vous évoquez sur la façon de traire la vache avec la tâche du veau, hein, c'est également ce qui se fait en pays peul. Vous le savez bien. Ce que je veux simplement souligner en rappelant ça, c'est que ça n'a pas qu'une vocation symbolique, c'est-à-dire effectivement les vaches qui sont habituées donnent du lait quand le veau est à leur côté, mais comme vous l'avez dit vous-même, on peut arriver à dresser les vaches pour qu'elles n'aient plus besoin du veau. Mais à travers ça se pose aussi la question du rapport justement entre le veau et la vache et de la part du veau dans les logiques d'organisation de l'élevage dans ces pays-là, c'est-à-dire que ça participe aussi quand même à l'alimentation du veau. Et ça, c'est un des problèmes que j'ai rapidement évoqué. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir voir la question du lait indépendamment des autres produits de l'élevage. Or, techniquement, non. Hein, ici, on a parfois du mal à comprendre que les vaches ont du lait quand elles ont des veaux. Ce ne sont pas des machines à lait. Hein, ce sont comme tous les autres mammifères. C'est lié à... Bon. Ça, c'est un exemple que je voulais donner. Par ailleurs, les techniques que vous avez montrées, le barattage du lait entier ou de la crème, c'est quelque chose qu'on a trouvé en Europe aussi. On barattait effectivement du lait entier. Pourquoi ? Bien parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, on ne pouvait pas écrémer facilement. Le seul écrémage qui existait, c'est l'écrémage naturel. On mettait le lait dans des grands plats et on prenait la crème qui surnageait. Les techniques que vous avez montrées chez les Yakoutes, c'est lié à l'écrémeuse qui est inventée à la fin du 19e siècle. Hein. Donc c'est une petite écrémeuse, en fait. Autrement, eh bien, effectivement, on barattait aussi du lait entier. C'est le lait ribot de Bretagne. Hein. L'instrument que vous avez montré, c'est donc un ribot. Voilà. Tout ça pour dire, si vous voulez, que prendre au sérieux le lait, à mon sens, c'est effectivement voir l'importance qu'il occupe dans l'histoire de l'alimentation humaine, parce que c'est quand même le premier aliment, et c'est pour ça qu'il faut remonter à ça, mais c'est aussi prendre au sérieux la matérialité des produits dans les contraintes techniques et économiques qu'ils génèrent, hein, et qu'on a bien vu dans votre film, alors que dès qu'on parle de ce sujet, on a plutôt tendance à dériver tout de suite vers les enjeux symboliques, et c'est pour ça que j'insistais sur cette dimension-là.
Quand je parlais de la sucée, en fait, je ne pensais pas du tout à la dimension symbolique de l'affaire, mais bien à la dimension technique, c'est-à-dire que ça favorise la montée de lait et ça permet aussi l'alimentation du veau, par ailleurs, enfin, qui doit quand même être complétée avec notamment le lait écrémé. Je ne sais plus ce que je voulais... Oui, le fait de... Quand vous avez parlé de l'importance de l'écrémeuse pour faire le lait à partir de crème. Eux aussi, les Yakoutes comme les Kazakhs, avant l'utilisation de l'écrémeuse, utilisaient parfois la couche supérieure du lait une fois reposée, plus grasse, pour faire du beurre également. Donc en fait, c'est vrai que finalement, ce que je vous ai montré, c'est très peu exotique. c'est justement ce qui me semble intéressant, c'est qu'en Sibérie orientale, quand il fait -60, finalement... Les techniques diffèrent assez peu Simplement, la différence là-bas, c'est surtout la conservation du fait de, donc, des caves gelées en permanence, du frigo et du congélateur naturel qui existe là-bas. Voilà.
Merci. Alors, bon, moi étant spécialiste de la Mongolie, je ne peux pas voir et entendre parler d'usage du lait sans penser à des usages rituels. En Mongolie, un des principaux consommateurs de lait, ce sont les esprits. Hein. On donne beaucoup de lait aux esprits, on asperge dans la nature du lait aux esprits pour garantir des conditions propices, et les esprits sont les grands consommateurs de lait. Alors, je voulais demander si c'était aussi le cas en Yakoutie, dans quelle mesure, ou s'il y avait d'autres usages rituels du lait dans cette société-là, ou au Kazakhstan.
Alors, de ce point de vue, on voit un paradoxe pour le lait de jument, c'est-à-dire que là où il est moins utilisé dans l'alimentation, en Yakoutie, il est davantage utilisé pour sa signification rituelle, puisque la fête nationale Yakout, les Séar, c'est la fête des libations de Koumis. Et donc, en fait, on ne traite plus guère les juments que pour ça. Et donc, il y a une très petite partie des juments qui est traite, et juste en juin, pour cette fête. Et il y a des offres. Il y avait une des photos sur lesquelles je suis passée assez rapidement, qui était justement une offrande de Koumis au feu. Donc c'est une cérémonie à laquelle j'ai assisté la semaine dernière, j'ai vu une photo là-dessus. Donc c'était une cérémonie pour un lac, puisque le lac est nourricier, à la fois le lac lui-même, parce que les Yakouts sont également pêcheurs, et ses abords, puisque près du lac il y a toujours des lieux d'estivage où on fait le foin, où on chasse, où on ramasse des baies. Petite cérémonie rituelle où on offre du lait au feu. Et on a érigé un serguet. Donc la personne qui s'appelle un algeshut, c'est-à-dire un diseur de bénédiction, offre du crin de cheval et du lait fermenté de jument au feu. Et à côté, on a érigé un poteau d'attache, et ce petit lieu est situé entre deux lacs qui portent le même nom, où actuellement on pêche, puisqu'en ce moment, en Yakoutie, en fait, on rassemble les provisions pour l'hiver. Et donc, on abat le bétail et on pêche collectivement abondamment du poisson qui servira à la nourriture pour tout l'hiver.
Alors, peut-être en deux mots, je ne sais pas que dans nos sociétés, il n'y ait jamais eu un usage rituel du lait. Hein. Il y a des rites autour de l'élevage, notamment dans les zones de montagne. Mais je ne pense pas que le lait ait jamais été inscrit dans des rites particuliers. En revanche, dans l'islam sénégalais, il y a une consommation du lait, de produits laitiers, lors des fêtes religieuses, lors des mariages, par exemple, qui doit correspondre, en fait, parce que ça n'a pas de valeur particulière liée à l'islam, mais doit correspondre à une transposition de valeurs symboliques pré-islamiques qui ont été réintroduites dans les cultures islamiques et qui sont très liées à la figure de la blancheur du lait. Hein. Il faut voir aussi que donc le troupeau de zébu peul, hein, ce qui marque la beauté d'une vache peul, c'est la blancheur. Hein. Donc la thématique de la blancheur joue un rôle important dans la culture laitière du pays peul.
Absolument. Et ça m'amène justement à une autre question qui est celle du symbolisme attaché au lait. Et pour rebondir aussi sur une des choses que vous avez évoquées et sur lesquelles vous pourriez peut-être revenir, c'est une espèce de retournement récent où le lait devient suspect. On commence à se méfier du lait, alors que finalement le lait c'est la figure de la pureté, la figure de la relation d'éducation aussi. On donne du lait aux enfants, c'est ce qui est l'élément nourricier qui fait grandir les enfants finalement. C'est a priori la substance la moins suspecte de notre alimentation. Et pourtant, maintenant, il devient suspect. Alors, comment ça se passe? Quel genre de problème ça soulève? Et est-ce que tous deux, vous pourriez nous en dire plus sur les symboles attachés au lait ou le système symbolique dans lequel le lait s'inscrit, non seulement du point de vue des techniques d'alimentation, mais aussi du point de vue du symbole des couleurs, etc.
Ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, hein, mon exposé un petit peu rapide, c'est que cette suspicion par rapport au lait, moi, je la vois comme une extension de la suspicion sur les produits animaux. Et c'est en ce sens qu'il me semble qu'il y a un point d'inflexion dans les régimes de consommation de nos sociétés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un développement tout au long du 18e, 19e, 20e siècle, hein, où on voit bien le basculement de la consommation de produits végétaux, notamment de céréales, vers celle de produits animaux. Hein. Ça apparaissait aussi, finalement, cette évolution dans le tableau que vous avez présenté tout à l'heure. Et je pense que c'est un cycle qui est sur sa fin, et ça concerne la consommation de viande, c'est très net. Et j'ai le sentiment que les produits laitiers sont restés protégés de ça pendant un moment, mais que c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que on prend de plus en plus conscience qu'il n'y a pas de lait sans viande, que les deux sont très liés. Alors c'est un problème qui se pose, puisque je parle, je vous dis également de la question de l'Afrique, hein, dans la tradition Peul, ce sont des éleveurs laitiers, hein, on évoquait tout à l'heure la distinction entre élevage pour le lait et élevage pour la viande, ce sont vraiment de l'élevage pour le lait. Donc on se cache un peu pour vendre le bétail pour la viande, mais enfin on le vend quand même aussi. Hein. Techniquement, c'est assez difficile de dissocier complètement. Et je crois donc que ce à quoi on assiste, c'est à la transposition aux produits laitiers des inquiétudes liées à la place de la consommation animale dans nos sociétés. Alors ça a une dimension qui est strictement sanitaire autour de la question des graisses animales, où le beurre comme graisse animale peut se trouver mis en cause au même titre que d'autres graisses animales, mais je pense qu'il y a une dimension plus symbolique aussi sur l'idée même de consommation animal, sachant que ben, ça va avec le statut de l'élevage, le statut du bétail dans nos sociétés, et y compris qu'il y a donc un lien entre le lait et la viande, entre l'élevage laitier et l'abattage, ce que pendant longtemps on n'a pas voulu voir.
Alors moi, de mon côté, chez les Yakoutes et les Kazakhs, c'est aucune suspicion vis-à-vis des produits laitiers, et je dirais même aucune suspicion vis-à-vis de la consommation de viande, puisque j'avais écrit un article qui s'appelle « Hypophile et hypophage », qui montre bien que aimer les chevaux et en manger, pour eux, il n'y a aucune contradiction. Ça va de pair. Et a fortiori, le lait est symbole de prospérité et d'abondance. Il y avait une petite citation que je voulais quand même vous lire sur l'image du bonheur lacté yakout, alors qui est tirée d'une épopée yakout sur donc qu'est-ce que le bonheur à la yakout. Avant, bien avant, nos ancêtres s'étaient établis en clan maternel le long des bords herbeux de la rivière, étanchant leur soif au lait de koumis, jetant une corde au cou du bétail bien nourri, riche d'un bétail somptueux. On pouvait dire qu'à cette époque, le lait caillé salait la terre. Il le couvrait d'une rosée de crème, leurs marais étaient lactés, leurs animaux de différents museaux, et les coursiers parcouraient les alas en noirs troupeaux. Voilà, donc, l'image du bonheur lacté.
Merci. Alors, avant de donner la parole au public, une dernière petite question très générale, mais un peu provocatrice, sur savoir finalement, à l'issue de tout ce que vous nous avez dit sur le lait, ses différents types, sa composition, etc., on peut se demander si finalement le lait, c'est une seule et même chose. Est-ce que l'unité du mot dans cette affaire garantit encore l'unité de la chose ? Est-ce que le lait de chamelle, le lait de vache, le lait de même... Si on étend ça au lait qu'on ne consomme pas, et qu'on appelle quand même lait, est-ce que c'est la même chose ? Et de même, est-ce que le lait, le petit lait, la crème, le lait caillé, tout ça, tout ce qui compose le lait, participe pas finalement à en faire une substance multiple, composite, aisément dispersée entre plusieurs procédés de production, entre différents parcours, etc. Est-ce que finalement... le lait peut encore être considéré comme une seule et même chose au fur et à mesure qu'on l'étudie.
À l'évidence, c'est ce que j'ai essayé de dire, il n'y a pas un lait, mais des laits, hein, et il y a 40 000 manières de les classer. Je veux dire, ce n'est qu'une catégorie générique que si on le prend dans le sens purement biologique, hein, mais à ce moment-là, effectivement, ça concerne le lait de tous les mammifères, avec bien sûr des compositions qui sont diverses. Dès lors qu'on essaye de saisir le produit, c'est une production humaine, c'est une construction avec des systèmes techniques qui peuvent varier, effectivement la nature des femelles laitières qui varie aussi, et des problèmes de nomenclature. Pour avoir beaucoup travaillé sur les statistiques laitières, notamment dans les pays africains, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Alors les statisticiens ont toujours des instruments pour traiter des produits laitiers, on a des tonnes équivalent lait, ce qui m'a toujours laissé perplexe, parce qu'on va compter le beurre et la poudre de lait en tonnes équivalent lait, alors même que ce sont des coproduits. Et bon, donc on a des problèmes de compte parfois qui sont assez drôles de ce côté-là. Donc oui, il faut effectivement rouvrir l'objet, si on veut le traiter, ouvrir cette boîte noire de ce qu'on appelle communément le lait. C'était le point de départ de mon exposé. Qu'est-ce que le lait ? C'est pas si évident à dire.
Non, juste un mot pour dire que ce qui m'a frappé dans l'utilisation du lait, que ce soit chez les Yakoutes et les Kazakhs, c'est que finalement le lait simple n'est quasiment pas consommé. Donc cette pluralité des produits laitiers, elle est d'emblée là, si on veut, quoi. Elle n'est pas, c'est pas tellement une évolution récente. Je crois moi en France, je bois beaucoup plus de lait. J'achète du lait pasteurisé 3 litres pour ma famille par jour, alors que là-bas, ils en boivent beaucoup moins. Alors qu'ils en traient évidemment des quantités phénoménales. Et ce qui se passe aussi d'ailleurs en Yakoutie. C'est un phénomène assez particulier, c'est que pour, sans faire de vilain jeu de mots, pour avoir des liquidités, ils vendent tout leur lait, et donc en fait ils en consomment assez peu. Ils en traient énormément, enfin les éleveurs que j'ai vus, et ils en consomment assez peu.
Le champ lexical des produits laitiers en Yakoute est organisé autour de plusieurs racines, ou est-ce qu'il y a une racine commune qui suggérerait que tout vient du même produit ?
Disons, les différents produits laitiers ont plusieurs racines, évidemment, mais quand même, il y a une unité du lait. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'y ait pas d'unité du lait en général.
Oui. Un dernier mot là-dessus. Parce que je crois, on a évoqué l'un et l'autre, l'association du lait avec la richesse. Je sais qu'il y a beaucoup de proverbes. Dans l'industrie du lait, je me suis amusé à mettre en scène toute une série de proverbes trouvés là-dessus. Et c'est pour ça que j'évoquais sa relation avec l'enrichissement. Je pensais à ça à propos de ce que vous disiez sur la vente de lait. Les Danois se sont mis à développer une industrie laitière à la fin du 19e siècle. C'était un pays extrêmement pauvre. Ils ont commencé, quand les blés américains sont arrivés et que les céréales danoises n'avaient plus de marché, ils ont transformé leur terre en pâturage pour fabriquer des produits laitiers et puis également des produits porcins, parce que le porc suit la vache, disait le proverbe danois, pour l'exportation en Grande-Bretagne. Donc ils fournissaient en fait le breakfast britannique, le beurre, le fromage, le fromage bleu, et puis effectivement les produits porcins qui allaient avec, et eux-mêmes importaient de la margarine. Donc, de même que dans les régions de montagne, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance de la fromagerie, c'était une fromagerie d'exportation. Les gens ne mangeaient pas de ces fromages de montagne. Alors, il y avait, avec les résidus, on fabriquait des produits maigres, de type ce qu'on appelle le céré ou le sérac, ou la concoyote. Ils ont des produits maigres qui étaient faits avec les résidus de la fromagerie. Donc, ça, je crois que c'est un point qui est très important, c'est-à-dire que l'augmentation de la consommation de produits laitiers est liée à l'enrichissement, et c'est comme ça aussi qu'on peut voir ce basculement et, en revanche, cette émergence de consommation de produits laitiers dans d'autres zones, dans le contexte aussi de l'enrichissement en Asie du Sud-Est.
Carole Ferré, François Vatin, merci beaucoup. Donc, il est temps maintenant de donner la parole au public et d'ouvrir le débat. Donc si vous avez une question, levez la main.
Ma question s'adresse à Carole Ferré. Vous avez évoqué, je ne sais plus si c'était pour le Kazakhstan ou pour la Yakoutie, le fait que parfois, alors pour les vaches, les bovins, la traite était réservée aux femmes. Alors que pour les juments, parfois, les hommes s'en occupaient. Alors, était-ce lié juste à des questions pratiques comme car la traite, vous l'avez expliqué, était beaucoup plus fréquente chez les, pour les juments, ou peut-être parce que la jument est peut-être plus capricieuse que la vache, ou était-ce lié à un autre rapport à l'animal? Voilà.
Je pense qu'il y a également des raisons idéologiques, c'est-à-dire que les bovins sont plus vus comme un animal féminin et les chevaux comme un animal masculin. Ceci dit, ça ne veut pas dire que toutes les vaches sont traites par des femmes et toutes les juments par des hommes. En fait, souvent au Kazakhstan, on m'a dit « c'est pas déshonorant pour un homme de traire une jument ». Ça le serait de traire une vache, mais j'ai quand même vu des hommes traire des vaches. Donc, en fait, il n'y a pas de règle stricte d'exclusivité d'un sexe ou de l'autre pour la traite, mais il y a quand même une différence dans la représentation des deux espèces. Et notamment au fait que la vache pâture près de la maison est un animal plus domestique, alors que les chevaux pâturent au loin, c'est un animal d'extérieur et donc plus lié aux hommes. Pour le dire vite.
Il y avait une question.
Oui, allez-y. Oui, d'accord. Madame Ferré, votre exotisme, c'est quand même passionnant chez les Yakoussi et les Kazakhs. Je voulais vous demander, madame, le pays immense, à part le lait, puisque vous y allez tout le temps, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre que les laits, les bovins, c'est surtout pour des territoires énormes. En dehors de... Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-bas? Je pense en pensant à l'économie ou même la vie des hommes, parce qu'après tout, ils ne peuvent ne manger que... la viande et le lait, quand même, il faut autre chose à côté. Puis, à la fin, vous avez dit que la consommation d'un des produits laitiers a baissé depuis la fin de luxe. Quelle est l'explication de la baisse? Est-ce que c'est le progrès parce qu'ils ne veulent plus ou parce qu'il n'y en a pas assez? Quelle est la raison pour laquelle il y a eu cette baisse-là? Puis, je termine, l'estomac, le fameux estomac qui sert de congélateur. Où est-ce qu'il le trouve, madame? Parce que s'il faut abattre chaque animal pour avoir un estomac et un congélateur, ça peut faire des dégâts. Merci.
Je n'ai pas très bien compris la fin. Enfin, alors, la baisse des produits laitiers est liée, d'abord, la première raison, c'est la baisse du cheptel. C'est assez simple. Ensuite, pour l'alimentation, c'est vrai que tous les deux sont des peuples pasteurs, donc une prépondérance traditionnelle des produits animaux, carnés et laitiers. Ceci étant dit, les céréales sont également utilisées de longue date. Il y a une pratique de l'agriculture, et une pratique beaucoup plus récente pour la Yakoutie, de la culture même des tomates et des concombres en serre, depuis simplement les années 80. Donc quelques produits végétaux néanmoins, même si les produits animaux sont nettement prépondérants. Alors pour l'estomac, c'est un estomac d'agneau. Donc ils ont également des agneaux et donc des estomacs d'agneaux par conséquent.
Et suffisamment d'agneaux sont abattus pour avoir suffisamment d'estomac pour conserver le beurre. Oui. C'est le sens de la question. Les autres sources d'alimentation en Yakoutie?
Alors en Yakoutie, en fait, ils sont également pêcheurs, comme j'en ai dit deux mots tout à l'heure. Et puis donc il y a aussi quand même une part d'alimentation végétale, hein, néanmoins.
Bonjour, j'ai deux questions. Il y a d'abord une question depuis tout gamin, donc je ne sais pas si je vais être contredit. On m'a toujours dit qu'il y avait deux races de vaches, les monocouleurs, qui étaient avec une robe unie, qui étaient des vaches à viande, destinées à la viande, et les bicolores, qui étaient des vaches laitières. Est-ce que d'abord, c'est quelque chose que je crois depuis longtemps, comment enseigner, est-ce que c'est réel? Et qu'en est-il dans les autres pays? Est-ce que c'est la même constante? Et ma deuxième question, c'est sur la consommation du lait, bon, je parle pour la France, ça a été une décision politique aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, juste après, qui a été d'instaurer le verre de lait sucré dans les écoles. Est-ce qu'avant cela, les enfants ne buvaient pas de lait? Vous parliez des fromages avec les personnes riches, pas riches, plus ou moins dégraissées. Est-ce que c'était parce que les gens étaient pauvres et n'avaient pas de lait? Ou c'était une carence alimentaire? Et est-ce qu'après, ça a perduré et ça a justement développé la consommation de lait chez les enfants, en dehors des bébés?
Dans l'amélioration génétique, vous avez effectivement des races qui sont spécialisées dans la viande et d'autres dans le lait, et d'autres qui sont plus ou moins mixtes. Enfin bon, toutes les vaches donnent quand même du lait. Hein. Je pense que ce qui était évoqué, c'était les vaches de type Holstein, qui était effectivement la principale, enfin l'espèce la plus productive en lait, l'usine à lait qui s'est développée en Europe dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que ce qui vous était évoqué, donc monocolore, c'était plutôt du type charolais, hein, je pense que c'est bon. Mais les vaches peules ne sont pas tachetées, hein, et ce sont bien des vaches laitières, hein, le zébu peules. Donc effectivement, c'est des représentations que vous aviez qui étaient fondées, mais qui ne correspondent pas à la généralité des catégories, de savoir si c'était tacheté ou pas tacheté. En ce qui concerne l'instauration du verre de lait dans les écoles, il s'agit effectivement d'améliorer, donc ça a été pris sous Mendès France, hein, dans les années 50, il s'agissait, j'ai encore connu ça moi dans mon enfance, on nous mettait du chocolat dedans, c'était quand même un peu mieux, jusque dans les années 60, on avait le lait à la sortie de la classe à 4 heures de l'après-midi, et il s'agissait effectivement d'améliorer la ration protéinique de la jeunesse française. Mendès France était député de l'Eure aussi, hein, ça a pu jouer. Oui, c'est qu'effectivement on sortait de la guerre avec des problèmes de sous-alimentation et au moment en même temps où l'industrie laitière a commencé à se développer, donc les intentions philanthropiques et les intérêts des éleveurs faisaient bon ménage.
Or, les maternelles, on n'imagine pas de consommation laitière avant la période du néolithique, disons au moment où on a commencé à domestiquer les animaux, notamment tous les mammifères. Il y a encore des, à ma connaissance, mais il faudrait bien me le confirmer, des régions du monde où on ne consomme pas de lait, notamment en Chine, je crois savoir. Et l'élévation du niveau de vie actuel et surtout l'effet des modes occidentaux fait qu'on en consomme plus maintenant. J'ai également une autre question, c'est de savoir s'il ne serait pas intéressant d'étudier le moment où l'animal est conservé, enfin la période où l'animal est sevré, la période où il est conservé pour donner du lait et la période où il est conservé pour donner de la viande, où il est abattu pour donner de la viande. Parce qu'effectivement, ce sont les mêmes animaux, mais il y a probablement des différences d'âge. Et ma troisième question est un peu plus, était un peu différente. Le lait est-il un produit carné ou pas? Parce que je suis frappée que dans certains régimes végétariens, le lait est adopté, est tout à fait accepté, alors qu'en fait c'est un produit d'un animal, de la viande, et non pas un produit végétal.
Vous avez des régimes végétariens et des régimes végétaliens. Hein. Donc dans le végétarisme, c'est la consommation de viande, stricto sensu, qui est exclue, mais vous pouvez effectivement avoir des consommations de produits laitiers. Dans le végétalisme, là, il y a l'exclusion de tout produit animal. Donc on ne peut pas dire que le lait est un produit animal, au sens où, notamment, le lait est un produit inerte biologiquement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a cru que c'était vivant parce que les petites bêtes se développent dedans. Mais un lait qui est trait de façon aseptique et conservé de façon aseptique, je veux dire, n'évoluera pas. C'est un lait inerte. Il y a simplement, effectivement, des enzymes dedans. Mais pas, je veux dire, ce n'est pas un lait, ce n'est pas un produit biologiquement actif. Alors, bon, vous avez tout à fait raison sur le fait que il n'y a pas de consommation de lait avant l'élevage, hein, ça c'est absolument certain. Sur le développement de la consommation à l'échelle internationale, vous avez un déplacement qui s'opère entre les populations buveuses et non buveuses de lait. Alors la question a été beaucoup discutée, donc je vous citais l'article de Bernot tout à l'heure, parce que vous trouvez chez les consommateurs de lait une enzyme que vous ne trouvez pas chez les autres, qui leur permet de digérer le lactose. Et donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait une source génétique à cela. Apparemment, ce n'est pas le cas, c'est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est quand on continue à consommer du lait que, je dirais, l'organisme se met en situation de pouvoir le consommer. Mais si vous pouvez avoir des intolérances au lactose ici même. Hein, donc, c'est pour ça aussi que vous avez des laits délactosés. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions.
Est-ce qu'il y a encore des populations qui ne consomment pas de lait aujourd'hui ?
Ah, mais il y a sûrement encore des populations qui ne consomment pas de lait, y compris en Chine. Je pense qu'une large partie de la population ne consomme pas de lait. Mais la consommation de lait se développe en Chine. La production d'abord de lait se développe en Chine. Ils deviennent exportateurs de poudre de lait. On peut suivre ça aussi. Bon, je m'intéresse donc au continent africain. On peut suivre ça dans le continent africain. Vous aviez une barrière là aussi très très forte qui était nord-sud. Et on voit bien comment la consommation de lait se déplace vers le sud. C'est lié aussi, bien sûr, au développement du marché international de la poudre de lait.
Puisque vous avez évoqué l'Afrique et la Chine, je vais me permettre de me poser des questions sur l'Inde. Tout le monde sait, je pense, qu'en Inde, la vache est un animal un peu particulier. Or, une des boissons nationales est le lassi, qui est un produit laitier. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il n'est pas fait à base de lait de vache. C'est une question que je me pose. Mais, à toute évidence, les Indiens consomment beaucoup de produits laitiers. Et j'ai même vu, alors ça c'est peut-être sous l'influence européenne, occidentale, mais j'ai même vu des distributeurs de lait dans les rues, chose que je n'ai encore jamais rencontrée en France. Donc d'où vient ce lait et est-ce du lait de vache déjà? Et si c'est le cas, d'où vient-il? Est-ce un phénomène récent ou est-ce une tradition, je dirais, pré-occidentale?
Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Inde, mais oui, bien sûr, l'Inde fait partie de la zone traditionnelle de production laitière, avec un élevage laitier important et qui a connu une transformation au cours de ces dernières décennies extrêmement efficace. C'est-à-dire que les Indiens ont réussi à endiguer le processus qu'on a connu en revanche en Afrique, c'est-à-dire de substitution de la production locale par des importations de poudre de lait. Donc le secteur laitier indien est tout à fait dynamique. Alors, ce qui me conduit, effectivement, je me souviens de la réponse que je n'ai pas donnée à madame tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça c'est une question que je me pose concernant l'Inde. Vous disiez, les animaux laitiers, c'est une question d'âge. C'est aussi une question de sexe. C'est les vaches qui donnent du lait. Voilà. Et le problème qui se pose dans l'élevage de toutes les espèces laitières pour le lait, c'est que faire des petits mâles. Il ne faut pas beaucoup de taureaux pour une vache.
Oui, juste à propos de l'Inde, effectivement, moi non plus, je ne suis pas du tout spécialiste. Je vous conseille de lire le livre de Marie-Claude Maillas qui s'appelle « Le baratage du monde », qui est consacré aux techniques en Inde et notamment à l'utilisation du lait de vache.
Merci. Alors, bon, on parle de l'Inde, de la Chine, on parle de l'Afrique. Donc, je vais dire un gros mot, le lait et la mondialisation, c'est deux choses qui sont quand même très liées. Vous l'avez étudié un petit peu, et ça apparaît aussi dans votre exposé, puisque le lait est remplacé par d'autres produits importés. En quoi le lait nous permet aussi de suivre les flux mondialisés?
Sous deux registres, il y a un point que j'ai évoqué très rapidement, ça aurait pu être le cœur de mon exposé, c'est effectivement la question de la poudre de lait. Avec le développement de la poudre de lait, vous avez un produit standard sur le marché mondial. Vous avez aujourd'hui des traders de poudre de lait.
Donc ça, c'est une évolution qu'on trouve pour toute une série de grands produits agroalimentaires mondiaux qui deviennent l'objet d'un commerce international, mais d'un commerce qui est financiarisé, parce que parfois, le stock bouge pas et il passe à travers plusieurs mains financièrement. Donc ça, je pense, c'est une des premières dimensions, c'est-à-dire effectivement l'émergence d'un marché mondial de la poudre de lait, sachant que les produits laitiers, comme produits de garde, sont depuis longtemps l'objet d'un commerce de longue distance. J'ai évoqué la question des fromages de garde qui servaient à l'avitaillement des navires. Vous avez un produit qui est très intéressant qu'on trouve dans l'Afrique sahélienne et saharienne, qui est l'huile de beurre. C'est-à-dire que pour avoir un produit de longue conservation, on liquéfiait le beurre et on l'embouteille, et c'était un produit important du commerce transsaharien qui s'est retrouvé extraordinaire, du beurre tchadien qui a été vendu jusqu'en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon. Donc le lait, qui est un produit à très forte valeur volumique, dès lors qu'on a résolu le problème de sa conservation, est un produit qui fait l'objet d'un commerce mondial. Donc ça, c'est une des premières dimensions de la mondialisation. Et l'autre dimension que j'évoquais, c'est celle de l'uniformisation culturelle, si l'on peut dire. C'est-à-dire du fait que on voit la consommation de produits laitiers se développer dans des pays qui n'en consommaient pas traditionnellement. Et c'est pour ça que je suis frappé de voir que cela correspond en même temps à une tendance à la régression de la consommation ici. Et donc, comme s'il y avait un effet de balance. Et donc, cette dimension culturelle, elle est bien évidemment à articuler avec la dimension du marché, avec l'émergence de nouveaux opérateurs. J'ai évoqué la Chine tout à l'heure. C'est le cas aussi du Brésil, qui est devenu un exportateur de lait. Et puis, bon, des pays qui s'étaient spécialisés là-dedans depuis longtemps, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Bon, il me reste plus qu'à vous remercier encore, Carole Ferré, François Patin, pour ces très beaux exposés et pour vos réponses à nos questions. Merci.